Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Premier pas d'une avocate, le podcast dans lequel je vous partage mes débuts dans la profession d'avocat. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série CRFPA mode d'emploi qui sera aujourd'hui consacré aux différentes épreuves du CRFPA. Dans cet épisode, je vais vous présenter les deux étapes du CRFPA et pour chacune de ces étapes, quelles sont les différentes épreuves que vous devrez passer. Je vous présenterai également comment se déroule concrètement le CRFPA, comme si vous y étiez, et donc comment les différentes étapes se déroulent sur la période de septembre à décembre. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, et je vous laisse tout de suite avec la suite. Depuis la session de 2017, le CRFPA est devenu national. Les sujets des épreuves d'admissibilité sont maintenant identiques sur tout le territoire, et un calendrier national est prévu pour les épreuves. Le CRFPA se déroule en deux étapes, l'étape de l'admissibilité et l'étape de l'admission. Tout d'abord, vous allez passer l'étape de l'admissibilité. Cette étape se compose de 4 épreuves écrites. Une épreuve de note de synthèse, une épreuve de droit des obligations, une épreuve de spécialité et enfin une épreuve de procédure. Ici, vous devrez choisir votre spécialité parmi l'une des 7 matières suivantes, donc parmi civil, affaires, social, pénal, administratif, international et européen ou fiscal. Votre matière de procédure dépendra directement de votre matière de spécialité choisie. Vous aurez procédure civile si vous avez choisi civil, affaires ou social. Vous aurez procédure pénale si vous avez choisi pénale et vous aurez procédure administrative contentieuse si vous avez choisi administrative. Pour les matières de droit international et européen et pour droit fiscal, vous avez la possibilité de choisir entre procédure civile et administrative. Donc là, il faudra faire votre choix en fonction si vous êtes plus publiciste ou au contraire plus privatiste. Du coup, pour l'épreuve de spécialité, se pose la question de savoir justement comment choisir cette spécialité. Avant tout, votre choix de spécialité ne déterminera pas votre choix de spécialité à l'école des avocats et il ne déterminera pas non plus votre champ de compétences en tant qu'avocat. Vous pouvez donc prendre la spécialité pénale au CRFPA et ne pas choisir cette spécialité à l'école des avocats ou ne jamais exercer dans cette spécialité une fois avocat. De plus, vous êtes totalement libre dans le choix de votre matière et vous pouvez donc choisir une matière que vous n'avez jamais étudiée dans votre parcours, que ce soit en master ou en licence. Mais ici, je pense que l'objectif est vraiment de prendre le moins de risques possible et au contraire, d'essayer de vous différencier le plus possible des autres dans un droit que vous connaissez et que vous maîtrisez. Donc, je vous conseille ici de choisir la matière que vous maîtrisez le plus et que vous appréciez le plus. Les programmes de toutes les spécialités sont très larges, puisqu'ils regroupent souvent 4 ou 5 matières étudiées en licence et en master. Donc, je pense qu'il ne faut pas déterminer votre choix de spécialité en fonction de la longueur des programmes ou en fonction d'une rumeur selon laquelle telle ou telle matière serait plus simple que d'autres. Je pense que chacune des matières a un programme à peu près équivalent et surtout a une difficulté équivalente. Chacune des spécialités comprend des matières qui peuvent paraître plus simples, parce qu'on les a vues en licence, mais également des matières plus complexes. Je pense notamment à les spécialités civiles, qui a des matières qui peuvent paraître un petit peu plus simples, comme droit des biens et droit de la famille, mais qui a aussi des matières beaucoup plus complexes, comme régimes matrimoniaux et sûreté. Donc je pense qu'il n'existe pas vraiment de matière qui soit plus simple par rapport aux autres spécialités. Mais de toute façon, n'oubliez pas qu'une matière peut paraître peut-être plus simple pour certaines personnes, mais qu'elle ne le sera pas forcément pour vous, et inversement. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas que vous fassiez votre choix de spécialité en fonction de la longueur des programmes ou de certaines rumeurs. Même chose, on entend parfois dire qu'il faudrait choisir la spécialité pénale parce que cela nous aiderait plus pour le grand taux, puisqu'il y aurait beaucoup plus de sujets sur du droit pénal et sur de la procédure pénale. Là encore, je pense qu'il ne faut pas faire son choix de spécialité en fonction du grand taux. Même s'il y a pas mal de sujets et de questions sur le droit pénal, le programme pour le grand taux est vraiment très très large et donc vous n'êtes absolument pas certain de tomber sur un sujet de droit pénal au grand taux. Et surtout, je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps. Je pense que le plus important est déjà de franchir la barre des écrits, qui est quand même une barre assez difficile à atteindre, avant de se projeter au grand oral. Je pense qu'il est préférable au contraire de choisir la matière dans laquelle vous vous êtes spécialisé pendant vos études, ou en tout cas celle dans laquelle vous avez le plus de connaissances, parce que cela vous permettra de gagner du temps lors de votre préparation, puisqu'il s'agira uniquement de réviser des notions que vous avez déjà comprises et peut-être assimilées. Et surtout, cela vous permettra de faire la différence lors de votre épreuve écrite par rapport à d'autres candidats. Je pense aussi qu'il est essentiel de choisir la matière qui vous plaît le plus, parce que la préparation du CRFPA est longue, et donc vous allez clairement passer de longues journées à réviser vos matières. C'est donc mieux pour vous de choisir une matière qui vous plaît un minimum, parce que sinon vos révisions vont être très très longues, voire vont vous paraître interminables, croyez-moi. Faites quand même attention à ne pas choisir une matière que vous n'avez jamais étudiée ou que vous avez étudiée il y a longtemps, même si cette matière vous plaît. Parce que vous risquez de vous retrouver face à des candidats qui seront spécialisés dans cette matière, et donc une fois encore, cela sera beaucoup plus difficile pour vous de faire la différence par rapport à ces copies. Je pense que le CRFPA n'est pas le moment pour tester une nouvelle spécialité. Vous aurez clairement le temps, une fois que vous l'aurez réussi, de vous spécialiser à l'école des avocats dans la matière qui vous plaît le plus, qui vous intéresse le plus. Mais en tout cas, je vous déconseille de découvrir une nouvelle spécialité pendant le CRFPA. Donc, pour récapituler sur votre choix de matière de spécialité, je pense que le plus judicieux est de choisir la matière que vous maîtrisez le plus et dans laquelle vous avez le plus de connaissances, et si possible, celle aussi qui vous plaît le plus. Pour ma part, choisir ma spécialité ne m'a pas vraiment posé de problème particulier. J'ai su tout de suite quelle matière j'allais choisir et je ne me voyais pas étudier une autre spécialité. Puisque comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode 2 sur mon parcours universitaire, je me suis spécialisée pendant toutes mes études en droit des affaires et notamment en droit des sociétés. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi la spécialité affaires au CRFPA. Cela a été un gain de temps important lors de mes révisions, puisque à part le droit bancaire que je n'avais jamais vraiment étudié, j'avais déjà de bonnes connaissances dans presque toutes les autres matières de cette spécialité, et notamment en droit des sociétés. C'était également la spécialité qui m'intéressait le plus, donc vraiment ça a été beaucoup plus facile pour travailler cette matière. Donc voilà pour le choix de votre spécialité. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroulent les différentes épreuves écrites du CRFPA. Vous allez passer une épreuve par jour lors de la première semaine de septembre, soit du lundi au jeudi, ou comme l'année dernière, du mardi au vendredi. La première épreuve, et sûrement la plus redoutée, c'est l'épreuve de la note de synthèse. Il s'agit d'une épreuve avant tout de méthodologie, d'une durée de 5 heures, oui oui, 5 heures, et elle a un coefficient 3, qui est donc le coefficient le plus élevé de toutes les épreuves d'admissibilité. L'objectif de cette épreuve est donc, pendant ces 5 heures, d'arriver à faire une synthèse d'un dossier d'une trentaine de pages, tenant sur 4 pages. La note de synthèse en elle-même ne fait appel à aucune connaissance particulière, mais plus à votre capacité de synthèse et de rapidité. Donc aucune révision n'est nécessaire, donc ça c'est un bon point. Mais par contre, il faudra vous entraîner de nombreuses fois pour réussir à maîtriser la méthodologie de cet exercice et surtout trouver la méthode qui vous convient le plus pour finir dans les temps vos 4 pages et donc au moins avoir la moyenne. Parce que ici, le risque c'est de ne pas finir dans les temps les 4 pages. Dans ce cas, vous n'aurez pas la moyenne et vous aurez peut-être une note très basse. Et comme le coefficient de la note de synthèse est de 3, donc le coefficient le plus important, dans ce cas, votre note va peut-être être rédhibitoire. Je vous mets en garde sur ce risque parce que c'est justement ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai passé le CRFPA. Je pense en reparler plus en détail dans un épisode consacré à mon expérience avec le CRFPA, mais pour vous expliquer rapidement, la première fois que j'ai passé cet examen, j'ai mal géré mon temps pendant l'épreuve justement de notes de synthèse. J'avais réussi à lire dans les temps à peu près tous les documents, mais après j'ai passé vraiment beaucoup trop de temps sur mon plan, que j'ai d'ailleurs changé, enfin bref, une catastrophe. Et du coup, comme j'ai vu que j'étais plus du tout dans les temps que je m'étais normalement attribué pour chaque étape, j'ai fait une grosse crise de panique pendant l'épreuve. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est horrible, parce que du coup, j'arrivais plus à me ressaisir pour vraiment rédiger ma note de synthèse, donc j'ai pas fini, bien sûr, j'ai pas du tout fini. Je crois que j'ai même pas rédigé une sous-partie, et du coup, sur la note, ça s'est carrément ressenti, et j'ai obtenu 6,5. Et malgré le fait que j'ai obtenu quand même d'assez bonnes notes sur mes autres épreuves, c'était pas suffisant pour obtenir 10 de moyenne, et donc je n'étais pas admissible. Donc il faut vraiment faire attention à cette épreuve et vous entraîner le plus possible pour gérer votre temps au mieux. Une fois que vous avez passé l'épreuve de la note de synthèse, vient l'épreuve du droit des obligations. Cette épreuve est une consultation qui dure 3 heures pour un coefficient de 2. Là, classiquement, il faudra avoir une bonne connaissance du programme en droit des obligations, avoir une bonne maîtrise de la méthodologie de la consultation et surtout bien gérer votre temps pour répondre au mieux ou en tout cas essayer de répondre à toutes les questions posées. Ensuite, la troisième épreuve est l'épreuve de spécialité. Là aussi, c'est une consultation d'une durée de 3 heures pour un coefficient 2. Vous en êtes donc à ce stade au troisième jour d'épreuve, et clairement, ça commence à être long et surtout dur de se remotiver, mais il ne faut rien lâcher puisque arrive la dernière épreuve, qui est donc l'épreuve de procédure. C'est aussi une consultation avec un coefficient 2, mais là qui est seulement d'une durée de 2 heures. Ici, clairement, le plus gros enjeu de votre épreuve de procédure, c'est de faire bien attention à gérer votre temps, parce que clairement, vous n'allez pas voir passer ces 2 heures. Donc voilà, à la fin de votre épreuve de procédure, vous avez enfin passé toutes les épreuves écrites. À ce stade, vous êtes clairement fatigué et surtout content d'avoir enfin fini cette première étape. Arrive ensuite la période où vous allez devoir attendre les résultats des écrits. Les résultats sont normalement donnés fin octobre. L'année dernière, les résultats étaient donnés le 22 octobre, donc cette période entre la fin des épreuves écrites et les résultats est quand même assez longue. Vous aurez tout le temps de refaire et de re-refaire vos épreuves écrites dans votre tête, mais la meilleure chose à faire, c'est de passer à autre chose et surtout d'essayer de ne pas repenser à vos épreuves, même si c'est parfois très difficile. Arrive alors la fin d'octobre, vous avez vos résultats, et si vous avez obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, vous avez donc réussi la première étape, qui est l'étape d'admissibilité, mais maintenant, il va falloir réussir l'étape d'admission pour pouvoir être définitivement admis au CRFPA. Les épreuves d'admission se composent de 2 épreuves orales, à savoir une épreuve de langue et surtout le grand oral. Les oraux débutent normalement le 2 novembre, mais l'organisation et les ordres de passage varient selon les IEJ. Tout dépend vraiment des IEJ, mais comme vous avez un risque de passer dès début novembre, je vous conseille vraiment de commencer déjà à réviser pour le grand O avant les résultats d'admissibilité, parce que sinon, réviser cette épreuve en seulement 2 semaines, ça sera vraiment très compliqué. Donc maintenant, je vais vous présenter la fameuse épreuve du grand oral. Le grand oral est donc, comme son nom l'indique, un oral que l'on passe devant un jury qui est composé de 3 personnes, un universitaire, un magistrat et un avocat. Le grand O se déroule en 2 parties. Une première partie où l'on fait un exposé de 15 minutes sur un sujet que l'on a préparé au préalable pendant 1 heure, suivi donc de la deuxième partie qui est une discussion qui dure 30 minutes. Cette épreuve a un coefficient 4, et donc c'est l'épreuve qui a le plus gros coefficient de toutes les épreuves du CRFPA. Pour revenir plus en détail sur la partie exposée, il s'agit ici de construire un exposé qui doit durer 15 minutes sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Ce sujet peut prendre la forme de 3 exercices différents. On peut avoir un commentaire d'arrêt ou un commentaire d'article, une plaidoirie ou encore une dissertation. Chaque IEJ détermine quel type d'exercice sera choisi comme sujet au grand oral. Certains IEJ vont faire des sujets avec les 3 types d'exercices, ou au contraire, certains IEJ vont seulement proposer des sujets avec un type d'exercice. Certains choisissent de poser uniquement des commentaires d'arrêt ou d'article, et d'autres IEJ proposent seulement des sujets de plaidoirie. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule concrètement le grand O. Vous arrivez dans le lieu dans lequel vous allez passer votre épreuve. Souvent, vous arrivez en avance, donc on va vous mettre dans une salle, un petit peu une salle d'attente, où il y a plein d'étudiants aussi hyper stressés qui stressent avec vous. Donc, vous attendez qu'on vous appelle, ensuite on vous appelle, là vous vous levez fébrilement, ça y est, c'est le moment, il va falloir tout donner. Ensuite, vous arrivez donc dans la salle où vous allez préparer votre sujet, on va vous demander votre carte d'identité, de signer, et là surtout, vous allez tirer au sort votre sujet. Maintenant, vous avez une heure pour préparer ce sujet avec seulement les codes autorisés que vous aurez apportés, souvent dans des valises. C'est un petit peu le passage obligé quand on passe le grand taux d'avoir sa valise de codes remplis, même si au final on va en utiliser deux, voire trois grand max. Mais bon, il vaut mieux les avoir au cas où. Au bout de cette heure de préparation, on vous appelle pour vous emmener devant votre jury. Là, vous entrez, vous saluez votre jury, vous vous asseyez et là, vous avez 15 minutes top chrono pour présenter votre sujet et donc faire votre exposé. Une fois que votre exposé de 15 minutes est fini, commence alors la partie discussion avec le jury qui dure 30 minutes. Pendant cette demi-heure qui peut paraître très longue, croyez-moi, le jury va pouvoir vous poser des questions en lien avec votre exposé, pour par exemple préciser certaines choses que vous avez oublié de mentionner, ou sur des thèmes qui se relient à votre sujet. Il peut aussi vous poser des questions juridiques qui n'ont aucun rapport avec votre sujet. Par exemple, si votre sujet était en lien avec le droit pénal, il peut partir sur vraiment toute autre chose et vous poser des questions sur du droit public, par exemple. Ces questions peuvent aussi porter sur l'actualité. Et enfin, vous pouvez aussi avoir des questions sur les raisons qui vous poussent à vouloir devenir avocat. Il s'agit souvent de questions un petit peu plus personnelles sur votre parcours et sur vous-même. Et donc, il faudra montrer à vos interlocuteurs quelles sont vos motivations pour exercer le métier d'avocat et notamment peut-être vos points forts. Bon après, c'est assez rare qu'on vous pose ces questions-là, en tout cas dans certains IEJ. Mais je pense qu'il faut préparer un petit peu ces questions plus personnelles et notamment celles pourquoi est-ce qu'on veut devenir avocat, parce que clairement si on vous pose la question et que vous ne savez pas répondre, ça va passer très mal devant le jury. Une fois que cette demi-heure de questions est finie, ça y est, vous pouvez sortir, vous avez fini votre grand oral. Clairement c'est un soulagement, j'étais vraiment dans un état euphorique, même pas de savoir si je l'avais réussi ou pas, juste de savoir que je l'avais fini. Donc on voit vraiment que l'épreuve du grand oral a pour but avant tout de tester vos connaissances en droit et libertés fondamentaux, que vous aurez donc travaillé avant de passer normalement le grand oral, mais aussi votre culture juridique et votre connaissance de l'actualité juridique. On testera aussi bien sûr votre aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Surtout, le but de cet oral pour le jury, c'est avant tout de déterminer s'il vous voit, vous, qui êtes candidat, comme futur confrère. Bon, je ne vais pas vous cacher que cette épreuve est assez stressante, voire très stressante, et malheureusement assez aléatoire au vu de l'étendue des sujets possibles ou des questions totalement imprévues que le jury peut vous poser. Mais vraiment, je pense qu'avec de la préparation, du travail et surtout de la confiance en soi, je vous assure que cette épreuve est réalisable et peut même bien se passer. Maintenant, je vais également vous présenter quand même l'épreuve de langue étrangère. Il s'agit d'une épreuve coefficient 1. Son déroulé et son contenu varient totalement d'un IEJ à l'autre, mais globalement, elle dure généralement 15 à 20 minutes et consiste en une brève discussion avec l'examinateur. Dans certains IEJ, vous devez faire une rapide analyse d'un document, mais certains IEJ choisissent de faire un exposé sur un sujet juridique tiré au sort. Normalement, cette épreuve de langue ne vise pas à apprécier les connaissances juridiques du candidat, donc vous êtes noté plus sur votre maîtrise de la langue étrangère et sur votre aptitude à vous faire comprendre et à comprendre. Voilà pour la présentation des deux épreuves d'admission. Une fois que vous avez passé ces deux oraux, ça y est, vous avez fini, c'est bon, enfin! Maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre les résultats qui sont normalement donnés début décembre. L'année dernière, c'était donné le 3 décembre. Et donc, si vous avez obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble de vos épreuves, aux épreuves écrites et aux épreuves orales qui se compensent, ça veut dire que ça y est, vous êtes admis et donc que vous avez réussi le CRFPA. Il ne vous reste maintenant plus qu'à faire la fête et surtout profiter de ce sentiment d'accomplissement intense qui est vraiment d'avoir réussi à passer ce fameux examen et ça y est, vous allez enfin pouvoir devenir avocat après avoir suivi les cours de l'école des avocats. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit concernant l'examen du CRFPA. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et vous a permis de comprendre un petit peu plus en quoi consistait cet examen. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager sur Instagram et à le noter sur iTunes ou sur une autre plateforme. Et si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram. Cela me soutiendra beaucoup et vous permettra de ne rater aucun épisode. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un tout nouvel épisode du podcast Premier pas d'une avocate.